Très bien. Moi, je... Voilà.
Ils ne savent pas ce que j'ai pu écrire de, assez très brièvement, en quelques mots, ce qui peut être pour moi un cadre de réflexion pour les problèmes qui nous occupent. Mais les quatre ou cinq choses que j'ai à dire, vous le verrez, aboutissent à des points d'interrogation. Et je crois que le sens d'une soirée comme celle-ci, c'est précisément de faire parler les gens, de vous faire parler sur les questions qui soit sont déjà ouvertes pour vous, soit peut-être, là ce serait un gain considérable, pour des questions nouvelles qui surgissent précisément dans ce débat, peut-être avec l'aide de ceux qui ont été chargés de l'introduire. Alors, aujourd'hui, tout le monde sait et tout le monde raconte, c'était pas le cas il y en a guère, que la science et la technique sont très essentiellement insérées, inscrites, enracinées dans une institution donnée de la société, et que la science et la technique de l'époque contemporaine n'a rien de transhistorique, n'a pas de valeur qui se situe au-delà de toute interrogation, au contraire, qu'elle appartient à cette institution sociale et historique qu'a été le capitalisme tel qu'il est né en Occident, il y a quelques siècles. C'est là une vérité générale. On sait que chaque société crée sa technique et son type de savoir, son type de transmission du savoir. On sait aussi, non seulement que la société capitaliste a été très loin dans la création, dans le développement d'un type de savoir et d'un type de technologie qui la différencie de toutes les autres, mais qu'en un sens, elle a placé ses activités à peu près au centre de la vie sociale. Nous savons aujourd'hui que la prétendue neutralité, la prétendue instrumentalité de la technique et même du savoir scientifique sont des illusions, et même cette expression serait insuffisante, ça masquerait l'essentiel de la question. Présenter la science et la technique comme des moyens neutres ou comme des instruments fait précisément partie de l'institution contemporaine de la société, c'est-à-dire cela fait partie de l'imaginaire social dominant de notre époque. Cet imaginaire social dominant, on peut le résumer dans cette phrase, la visée c'est l'expansion illimitée de la maîtrise rationnelle, bien entendu, lorsqu'on y regarde de près, il n'est pas nécessaire d'aller très près pour le voir, cette maîtrise est une pseudo-maîtrise et cette rationalité est une pseudo-rationalité. Il n'empêche que c'est cela le point central des significations imaginaires qui tiennent ensemble la société contemporaine. Et cela n'est pas seulement le cas dans le capitalisme dit privé ou occidental, c'est aussi le cas dans les pays prétendument socialistes, dans les pays de l'Est, où les mêmes instruments, les mêmes usines, les mêmes processus de savoir sont mis également au service de cette signification imaginaire, à savoir l'expansion illimitée d'une prétendue maîtrise, prétendue rationnelle, et, parenthèse, mais quand même, nous ne pouvons pas discuter en faisant abstraction de ce qui se passe, nous voyons beaucoup plus clairement aujourd'hui, plus exactement, les gens peuvent voir, moi je prétends, ça fait 35 ans que je le vois, que la coexistence de ces deux systèmes dont chacun prétend posséder le monopole de la voie par laquelle on parviendra à la maîtrise rationnelle du tout est en train de frôler le point où il y aura effectivement une maîtrise totalement rationnelle du seul véritable maître, comme dirait Hegel, c'est-à-dire de la mort. Cet imaginaire, cette idée de l'expansion des forces productives de la richesse, du capital, de la science, donc du savoir nécessaire pour que la science se développe, de la technologie, etc., est tissée avec toute l'institution de la société et pénètre de plus en plus l'ensemble des activités. Mais nous pouvons nous demander plus profondément comment cette société tient ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'elle tient ensemble, malgré les conflits que nous connaissons, malgré les contradictions internes qui la traversent? Il y a une première chose qu'il faut, je crois, éliminer définitivement de nos esprits, c'est la vieille mentalité de gauche, l'idée que le système, ici je parle carrément des pays du capitalisme moderne, des pays industriels et libéraux, c'est que le système ne tiendrait que par la répression ou que les systèmes ne tiendraient que par une manipulation des gens en un sens extérieur du terme manipulation. Cela n'est pas vrai. Ce qui est important et ce que nous devons comprendre si nous voulons. Comment ? C'était essentiellement l'idée de la gauche, dans le sens le plus général du terme, que je caricature, mais à peine, que la société est une poudrière, que le prolétariat n'attend que le moment. On pourra parler tout à l'heure. Je tiendrai à cette tradition.
Chauffe, Marcel.
Je tiendrai à cette tradition qui demande qu'on laisse celui qui a introduit un débat parler pendant les 30 ou 40 minutes qu'on lui a donné, et ensuite je serai enchanté de discuter. Je vous dirai même d'ailleurs, ou non plutôt, bon. Alors je disais que cette idée que le système tiendrait uniquement par la répression et uniquement par la manipulation en un sens externe du terme est fausse. Nous devons comprendre, si nous voulons vraiment lutter contre le système et aussi voir les problèmes auxquels se heurte aujourd'hui par exemple un mouvement comme le mouvement écologique, que le système tient parce qu'il réussit, vérité sans doute très désagréable pour certains, très désagréable en elle-même d'ailleurs, l'adhésion des gens à ce qui est. C'est-à-dire, il réussit à créer tant bien que mal, pour la majorité des gens, et pendant la grande majorité des moments, leur adhésion au mode de vie institué, concret, de cette société. C'est là la constatation fondamentale dont on doit partir si on veut avoir une activité qui ne soit pas futile et vaine. Cette adhésion des gens au système, que vous voyez autour de vous d'ailleurs, effectivement, si les gens n'adhéraient pas au système, le système serait par terre dans les 6 heures. Adhésion contradictoire, bien sûr, qui va de pair avec des moments de révolte, une lutte perpétuelle dans la production ailleurs contre en même temps le système, mais au total, composante nette des forces, comme on dirait, mécaniques, adhésion, la preuve, c'est que le système est là. Cette adhésion, elle tient bien sûr à des processus extrêmement complexes, la question même d'évoquer ici, qui constitue tout simplement tout ce qu'on peut appeler le processus de fabrication sociale de l'individu et des individus de nous tous, dans et par la société instituée capitaliste telle qu'elle existe. Je tiendrai seulement compte de deux aspects de cette fabrication, c'est-à-dire l'instillation aux gens, dès leur plus tendre enfance, pour continuer par la suite, de l'autorité, d'un rapport à l'autorité, et de l'autre côté, l'instillation aux gens d'un ensemble de besoins, entre guillemets, à la satisfaction desquels ils seront par la suite attelés toute leur vie. L'autorité, bon, quand on constate la société contemporaine, on peut constater que par rapport à des sociétés antérieures, elle est certainement désacralisée, il n'y a plus de roi par la grâce de Dieu. Si je suis en Belgique, je l'oubliais, mais je ne sais pas si le roi des Belges est considéré comme roi par la grâce de Dieu, ça m'étonnerait beaucoup. Enfin, je pense que ça doit être un principe du droit constitutionnel belge, que le roi des Belges est roi parce que le peuple belge souverainement a décidé qu'il aurait un roi, non? Non?
Bon, oui, je pense qu'il doit y avoir...
Elle est donc, cette autorité, désacralisée. C'est pas possible.
Bon.
Non.
Il y a un mauvais contact. Est-ce qu'il y a le vôtre, ça marche ?
Attends.
À part la technologie moderne, on revient à la vraie agora. Apparaît comme désacralisé. Et en fait, ce n'est pas vrai. Et on voit que ce qui a pris la place de ceux qui autrefois sacralisaient l'autorité, c'est-à-dire, comme disait saint Paul, tout pouvoir vient de Dieu, ce qui a pris cette place, c'est précisément quelque chose qui, bien entendu, n'est pas sacré pour nous, mais qui a réussi tant bien que mal à s'installer socialement comme pratiquement l'équivalent du sacré, comme une sorte de nouvelle religion plate et aplatie, qui est précisément l'idée, la représentation, la signification imaginaire du savoir et de la technique. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est bien entendu non pas que ceux qui exercent le savoir, le pouvoir actuellement, savent, mais qu'ils prétendent savoir, et que c'est au nom de ce prétendu savoir, savoir spécialisé, savoir scientifique, savoir technique, on est accablé en France d'avoir un président de la République qui prétend être économiste, et qui faisait des discours à la Chambre des députés où il citait pendant 3 heures des statistiques avec 4 chiffres décimaux, ce qui veut dire qu'il aurait dû être recalé en première année du R d'économie, parce qu'une statistique avec 4 chiffres décimaux s'agissant des prix et de production n'a strictement aucun sens. On peut parler à 10% près, c'est tout. Bon. Mais il n'empêche que le président Giscard, qui n'est pas économiste, a réussi à déterrer un dinosaure du prétendu savoir économique qui s'appelle Raymond Barre, qu'il a baptisé en public le plus grand économiste de France. Moyennant quoi, le bordel de l'économie française maintenant est beaucoup plus grand qu'il n'était non seulement il y a 3 ans, mais qu'il n'aurait été simplement si un concierge quelconque était président du Conseil. Bon. Ce qui est, cela dit, évident, c'est d'une part qu'il y a là un terrain, si je peux dire, de lutte, et notamment pour des gens comme vous, comme nous, ici, pour des gens précisément qui, plus ou moins, avons affaire avec les activités intellectuelles ou scientifiques, etc. Ce terrain des luttes étant de montrer que le pouvoir n'est pas le savoir à l'époque actuelle, qu'il ne sait pas tout et qu'il ne sait même, pour des raisons profondes et organiques, que beaucoup moins de choses que savent les gens, et deuxièmement, que ce savoir dont il se réclame est un savoir bien particulier. Mais il y a aussi une question, bien que pour l'instant, je ne veux pas m'étendre dessus et je ne pense pas que c'est une des questions sur lesquelles nous devrions nous étendre ce soir, mais enfin, libre à chacun. Il y a bien entendu un problème du savoir, et là je ne parle plus de M. Giscard et de M. Barre, et même un problème de la technique, qui effectivement nous interroge en tant qu'il dépasse l'institution présente de la société, en tant que, même si par exemple l'orientation, les fins, le mode de transmission du savoir scientifique, etc., sont non seulement ancrés mais consubstantiels avec le problème, avec le système social actuel, il y a une création de quelque chose qui certainement dépasse l'époque contemporaine, comme cela était vrai d'ailleurs pour les époques antérieures de l'histoire. Pour prendre un exemple que j'aime citer, le théorème de Pythagore, il a été découvert et démontré il y a 25 siècles à Samos ou je ne sais pas où, peu importe. Bon, et il est évident qu'il a été découvert dans un contexte, dans un ensemble de schèmes imaginaires profonds qui était indissociablement lié à la conception grecque du monde, à l'institution imaginaire grecque du monde, comme toute la géométrie grecque, eh bien, il n'empêche que 25 siècles après, ce théorème de Pythagore, ou quelque chose qui a le même nom, non seulement continue à, guillemets, point d'interrogation, être vrai, mais est infiniment plus vrai que ne le pensait même Pythagore lui-même, puisque l'énoncé présent du théorème de Pythagore, tel que vous le trouverez dans n'importe quel traité d'analyse, est une généralisation considérable. Ça s'appelle toujours théorème de Pythagore, et on dit que dans tout espace pré-hilbertien, la somme des carrés des normes est égale à la norme des sommes des carrés, etc. Bon. Ou, si vous préférez, il n'y a pas de société sans arithmétique, la plus sauvage, la plus archaïque, la plus primitive possible. Bon. Où s'arrête l'arithmétique? Ça aussi, ça fait partie de la question du savoir, et c'est trop facile d'évacuer la question, soit comme le font, mais c'est à peine nécessaire d'en parler, des petits mystificateurs comme Lévy par exemple, quand ils disent que le totalitarisme c'est les savants au pouvoir, comme si Staline, qui comme vous le savez dirigeait la deuxième guerre mondiale sur une map monde comme l'a dit Khrouchtchev, était un savant au pouvoir, mais aussi C'est trop facile d'évacuer la question, comme ça se fait souvent dans ce que j'appellerais mes milieux, ou des gens qui me sont très proches par ailleurs, en voulant jeter par-dessus bord, totalement, comme ça, toute la question du savoir, de la science, et derrière cela, l'interrogation, mais aussi, effectivement, ce qui découle d'un certain nombre d'acquisitions, de découvertes, etc., concernant notre pratique. Maintenant, tout aussi important est le processus, la partie du processus de fabrication sociale de l'individu qui concerne les besoins. Bien entendu, il n'y a pas de besoin naturel de l'autre, de l'être humain, dans aucune définition du terme naturel, sauf peut-être dans une définition ultra-philosophique où nature serait quelque chose de tout à fait différent de ce que vous pensez d'habitude par ce terme. Oui, ça serait, je ne sais pas moi, une nature à l'Aristote, à la Spinoza, à je ne sais pas. Ce serait une norme idéale et réelle à la fois. Bon. Nous ne sommes pas ici pour l'instant pour faire de la métaphysique. Cette nature-là ne nous intéresse pas. Je ne crois pas qu'on pourrait se mettre d'accord là-dessus socialement pour définir des besoins qui correspondraient à cette nature-là. Il n'y a pas de besoins naturels. Toute société crée un ensemble de besoins pour ses membres et leur apprend que la vie ne vaut la peine d'être vécue et ne peut être vécu même matériellement que si ces besoins-là sont satisfaits. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique avec le capitalisme là-dessus? C'est que le capitalisme n'a pu surgir, se maintenir, se développer, se stabiliser, malgré et avec d'ailleurs les énormes luttes ouvrières qui ont déchiré son histoire, que parce que, premièrement, il a mis au centre de tout les besoins économiques. Il n'y a pas besoin de faire un pèlerinage à la Mecque ou à ce temple hindou qui est au bout de la péninsule indienne, pour laquelle les hindous mettent de côté l'argent. Non, ça c'est pas un besoin, ça l'est pour d'autres cultures. Il y a un besoin absolu d'avoir une voiture ou de changer de voiture tous les 2 ans, ou d'avoir une télévision en couleur à partir du moment où il y a des télévisions en couleur. Il a réussi donc en même temps, en deuxième lieu, à créer une humanité pour laquelle, plus ou moins, et tant bien que mal, ses besoins, entre guillemets, sont à peu près tout ce qui compte dans la vie. Et troisièmement, et surtout, et c'est là le grand clivage, par exemple, avec une vue comme celle que pouvait avoir Marx de la société capitaliste, eh bien, ces besoins qu'il crée, le capitalisme, il les satisfait, tant bien que mal, et la plupart du temps. Comme on dit en anglais, he promises the goods and he delivers the goods. Bon, les marchandises, la camelote, elle est là. Vous n'avez qu'à sortir, elle est là, et vous n'avez qu'à bosser pour pouvoir l'acheter, plus ou moins, etc. Et si vous êtes sage, vous gagnerez plus, vous grimperez, et vous achèterez plus. Et voilà. Et ça tourne. Et ça marche, et ça consomme, et ça remarche. La question n'est pas, si vous voulez, à cette étape de la discussion, notre critique de cet ensemble des besoins, qu'elle soit personnelle, de goût, humaine, philosophique, biologique, médicale ou tout ce que vous voudrez. Peut-être que ça marchera comme ça parce que l'humidité, bon conducteur du courant, je crois. La question n'est pas là. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est que, brièvement parlant, cette société marche aussi parce que les gens trouvent de l'essence pour leur bagnole et qu'à ces bagnoles, ils y tiennent et qu'actuellement, effectivement, une des choses dont on peut penser qu'elle pourrait mettre par terre le système en Occident, ce serait le fait que le gouvernement ne puisse plus garantir aux automobilistes l'essence pour leur bagnole. Mais ça veut dire que lorsque nous parlons des problèmes de l'énergie, lorsque nous parlons des problèmes de l'énergie nucléaire, c'est tout le mode de vie et tout le fonctionnement social et politique qui est impliqué dedans, et cela du point de vue des gens. Encore une fois, peu importe que nous critiquions l'abrutissement consommationniste. On pourrait d'ailleurs illustrer, parce que, bon, excusez-moi de me référer encore et où j'ai vie et que je connais mieux, mais on voit parfaitement des discours électoraux du camarade marché, s'il n'existe pas déjà, expliquant primo, si vous n'avez plus de l'essence pour rouler, c'est la faute de trust et aux multinationales. Et ça, il explique déjà. Et deuxièmement, si vous amenez le Parti communiste au pouvoir, eh bien, on vous donnera de l'essence pour vos bagnoles, entre autres parce que notre grand allié, l'Union soviétique, producteur de pétrole, etc., peu importe si ça commence à aller mal aussi maintenant de ce côté-là, mais on voit le scénario. Bon. Et un scénario qui peut être très efficace, comme il peut être aussi très efficace de ce qui est apparemment le côté opposé, je dis bien apparemment, c'est-à-dire du côté d'une démagogie néo-fasciste qui pourrait se développer précisément à partir de la crise de l'énergie, parce que, et là c'est la question encore que je pose, telles que sont actuellement les choses, cette crise de l'énergie, qui évidemment n'a de sens comme crise et n'est crise que par rapport à ce modèle de société, c'est ce modèle de cité qui a besoin de 10% par an de plus de pétrole ou d'énergie en général pour pouvoir continuer à tourner, n'est-ce pas? Bon. Ben, cette crise de l'énergie contient peut-être en germe, et ça c'est à vous de répondre, la mise en question par les gens de l'ensemble de ce système, mais peut-être contient tout aussi en germe la possibilité pour les gens de suivre sur le plan politique les courants qui nous apparaîtraient les plus aberrants, les plus monstrueux, les plus extrêmes d'un côté ou de l'autre, parce que cette société précisément ne pourrait plus continuer si on ne lui assurait pas ce ronron de la consommation croissante, et qu'à ce moment-là, elle pourrait facilement, au lieu de se remettre en cause et dire « mais c'est complètement fou ce qu'on est en train de faire à la façon dont on est en train de vivre. » Ah oui, machin ou truc à la solution, où il n'y a qu'à foutre à la porte les Arabes, les Juifs, les machins, les trucs, les Espagnols, les Chiliens, je ne sais pas qui, enfin peu importe, n'est-ce pas, pour résoudre le problème, etc. Alors, la question que je pose à cet égard, c'est où en est actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce terrain extrêmement glissant, d'ailleurs insondable, où en est actuellement la crise du mode de vie capitaliste chez les gens, dans leur esprit et dans leur profondeur, et deuxièmement, que pourrait être une activité politique lucide qui accélère la prise de conscience de l'absurdité du système et les aide à dégager précisément les éléments de critique qui, très probablement, se forment déjà à droite et à gauche. Je voulais maintenant dire, en immédiate liaison avec ce qui précède, quelque chose de la façon dont je vois le mouvement écologique. Ne m'accusez pas de schématisme, mais par rapport à ce classement que j'ai opéré tout à l'heure, c'est-à-dire instillation aux individus d'un schème d'autorité et instillation aux individus d'un schème de besoin, on peut observer une sorte d'évolution dans la société capitaliste du point sur lequel ont porté les mises en cause internes, les contestations, les révoltes, les révolutions, si vous voulez, dans le temps. On peut dire que le mouvement ouvrier a commencé par mettre en cause un peu l'ensemble de la société, mais d'une façon qui souvent laissait dans l'ombre, c'était fatal à l'époque, des aspects tout à fait importants et profonds du problème politique de la reconstruction d'une société non aliénée, une société autonome, que par la suite et dans les temps récents, le mouvement des femmes et les mouvements des jeunes ont surtout évidemment mis en question les schèmes et les figures d'autorité et les relations d'autorité telles qu'elles existaient dans la société, et que ce que nous appelons le mouvement écologique, ce qu'il met en question, c'est effectivement la structure des besoins et le mode de vie. C'est bel et bien là-dessus que la chose se joue. Je crois d'ailleurs que, implicitement, et peut-être, et chez beaucoup de toute évidence explicitement, ce qui est en jeu dans le mouvement écologique, c'est toute la conception, toute la position des rapports entre l'humanité et le monde. Et finalement, la question éternelle, qu'est-ce que la vie et nous vivons pour quoi faire ? Alors, on sait déjà une réponse, la réponse capitaliste, on la connaît. Petite parenthèse et retour en arrière, il n'y a pas de plus belle formulation de l'esprit du capitalisme et de sa liaison avec un certain savoir et la technique dont je parlais au début de cet exposé que la phrase archi-connue de Descartes, bon, atteindre au savoir ou à la vérité pour nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, idée évidemment à la fois absurde, criminelle, folle et illusoire. Qu'est-ce que ça veut dire être maître et possesseur de la nature? Passons sur les antécédents philosophiques et théologiques de cette idée. Mais précisément, si quelque chose apparaît en tâtonnant peut-être, en balbutiant peut-être à travers le mouvement écologique, c'est que certainement nous ne voulons pas être maîtres et possesseurs de la nature, d'abord parce que nous avons compris que ça ne veut rien dire, que ça n'a pas de sens, et que deuxièmement nous voulons un autre rapport à la nature et au monde. Ça veut dire aussi un autre mode de vie, ça veut dire aussi d'autres besoins. Mais question, lesquels? Que voulons-nous? Qui et comment peut répondre à cette question? Répondre en connaissance de cause, si je peux dire, non pas dans le savoir absolu, mais en connaissance de cause, ça ne veut pas dire la même chose, et en lucidité, et au nom de qui? Pour moi, le mouvement écologique est apparu, et chaque fois que je l'ai eu en parler, par écrit, oralement, je l'ai inclus dans l'ensemble de ces mouvements dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des mouvements tendant vers l'autonomie de la société. Ici, bien sûr, il s'agit en apparence, dans le mouvement écologique, de l'autonomie par rapport à un système technico-productif, soi-disant inévitable, ou soi-disant optimal, c'est-à-dire le système technico-productif qui est là, dans la société actuelle. Mais il est absolument certain que potentiellement ce mouvement, par les questions qu'il soulève, dépasse de loin cette question du système technico-productif et qu'il engage tout le problème politique et tout le problème social. Je vais m'expliquer et terminer là-dessus. Ça engage tout le problème social et tout le problème politique. D'abord, on peut le voir d'une façon que j'appellerais étroite. Et pour parler brutalement, lutte antinucléaire. Oui. Bon, chose que vous avez dû entendre 50 000 fois, je m'excuse. Mais c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire en même temps lutte anti-électricité ? Si oui, il faut le dire. Et il faut le dire en disant oui, 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 nous voyons toutes les implications. Pas de sono, mais ça c'est déjà fait. Pas de téléphone. Pas de bloc opératoire, voire Illich, d'ailleurs, les chirurgiens ne font que tuer les gens. D'accord. Mais pas ceci, pas cela, pas de radio, pas de magnétophone, pas de disque de Keith Jarrett, comme j'entendais tout à l'heure là-bas. Bon, tout ça, peut-être. Mais il faut le savoir, il faut le dire. Sinon, alors, la seule chose qui apparaît comme logique, c'est de mettre en avant des projets altères, comme le fait Courrèges en France avec un groupe de mathématiciens. C'est-à-dire dire que non, il n'est pas nécessaire de se priver d'électricité à condition de réformer l'ensemble du système de production d'énergie de telle sorte qu'il ne s'agisse que d'énergie renouvelable. Bon, je pense que vous en connaissez beaucoup plus long que moi sur ces énergies renouvelables, ce n'est pas la peine que je m'étende. Et, bien entendu, Courrèges le dit d'ailleurs, parce que c'est un esprit très rigoureux, des rares mathématiciens qui, quand ils sortent de leur domaine, continuent d'être rigoureux, il dit, bon, je sais bien que tout cela soulève des problèmes politiques et sociaux, lui il dit sociétaux, énormes, et en particulier l'acceptation par la société de l'idée d'un état stationnaire. Et en plus, bien entendu, des problèmes très profonds et très difficiles, mais là, bon, moi, je me sens en terrain familier. Non pas que j'ai les solutions, mais par rapport à l'élaboration, si je peux dire, des interrogations, des problèmes très difficiles et très importants quant à la gestion et au gouvernement d'une économie qui et d'une société qui serait comme ça, décentralisée, vivant sur des ressources locales généralement renouvelables, etc., etc. Le projet est très sérieux, aussi sérieux qu'il peut l'être. Mais déjà, il engage quelque chose qui dépasse de loin le simple problème de l'énergie, enfin, simple. Qui dépasse le problème de l'énergie nucléaire, qui n'est pas simple effectivement, puisqu'on ne peut y toucher qu'en allant comme ça de fil en aiguille à peu près. Autre formulation, si vous voulez. Bon, alors, mais à partir du moment où vous mettez en avant un projet alter, c'est-à-dire un projet alternatif, une alternative aux affirmations des instances officielles, ben, il faut des centrales nucléaires ou autrement on n'aura plus d'électricité dans 3 ans ou pas assez d'électricité. Déjà, bon, il y a des ruptures parce qu'il y a trop de charges, etc. Bon. On propose des projets alternatifs tout en sachant qu'ils laissent ouvertes une foule de questions des plus radicales. Tout en sachant aussi qu'en partie, ces projets sont récupérables, en partie je dis bien, sont récupérables à des fins qu'on ne pourrait même pas appeler réformistes, mais à des fins pures et simples de colmatage du système existant. Autre question, de toute façon, en deçà de cela, Est-ce qu'un réformisme écologique ou antinucléaire a un sens? Par réformisme, c'est pas du tout une injure dans ma bouche, en ce moment en tout cas, j'entends simplement le fait qu'on gueule pour qu'il y ait une loi contre la pollution des rivières, par exemple, en laissant en place le trust, les multinationales, le parti communiste, le ceci, le cela, le roi, tout ce que vous voulez. On veut une loi anti-pollution rivière. Bon, évidemment, il y a une certaine réponse, on va encore crier là-bas, heureusement il n'y a plus de migrants. Il y avait une certaine réponse traditionnelle qui disait, ben non, on se bat pour la révolution et un sous-produit de la révolution sera la non-pollution des rivières. Bon, non, n'est-ce pas? Il y a une question de la pollution des rivières ou des lacs ou n'importe quelle autre question analogue actuellement. Alors, est-ce qu'un réformisme sur ce plan est concevable et a un sens? Et jusqu'où? Moi, à présent, je serais plutôt enclin de répondre oui, il a un sens, mais à condition qu'il soit lucide et qu'il soit explicite. C'est-à-dire qu'ils disent actuellement nous nous battons pour ceci. Nous savons très bien, à la fois que ça ne résout pas les problèmes, mais aussi et surtout que ce dont nous demandons l'introduction ou l'application, aussi longtemps que le système actuel existera, aura nécessairement une signification ambiguë. Comme vous le savez, la sécurité sociale a été dans la plupart des pays, pas en Allemagne, enfin peu importe, une conquête arrachée de haute lutte par la classe ouvrière. Mais vous avez finalement des marxistes qui vous expliquent, et après tout c'est pas faux d'un certain point de vue, qu'elle fait fonctionner le système capitaliste parce qu'elle sert à l'entretien, n'est-ce pas, de la force de travail. Bon, alors est-ce qu'avec cet argument vous demandez la suppression de la sécurité sociale? Et je termine, il y a le problème beaucoup plus large, l'aspect, si vous voulez, le plus critique au sens de crise, de décision, c'est que parler d'une société autonome, d'une autonomie à l'égard des besoins, de nouvelles techniques, etc., tout cela présuppose à la fois la capacité et la volonté des hommes de s'auto-gouverner, des hommes, j'entends des humains, excusez-moi, c'est mes origines grecques, quand je dis homme, je pense anthropos, c'est-à-dire indifféremment de sexe. Bon, donc des hommes et des femmes, ou des anthropoi, si vous préférez, de s'auto-gouverner, et je vous dirais très franchement que pendant très longtemps, pendant toute la période où je faisais avec des camarades socialisme barbarie, et même après, pour moi c'était surtout là le problème d'une transformation radicale de la société. Savoir, est-ce que les humains ont la capacité, et ça c'est pas peut-être tellement le problème, mais surtout la volonté de s'autogouverner, d'être maître d'eux-mêmes? Parce qu'après tout, on peut dire que s'ils le voulaient, rien ne les empêcherait. Ça, c'est là depuis au moins la Boétie. Mais il y a un autre aspect qui n'a commencé à m'apparaître que, disons, peu importe, il y a une dizaine d'années, et qui de plus en plus me préoccupe, c'est qu'une autre société, une société autonome, n'implique pas seulement l'autogestion, l'autogouvernement, l'auto-institution et tout ce que vous voudrez, ou alors l'auto-institution, il faut la prendre dans le sens là. Elle implique une autre culture au sens le plus profond du terme. Elle implique un autre mode de vie. Elle implique d'autres besoins. Parce que ça, vous pouvez être tranquille. Évidemment, l'idée d'un socialisme des embouteillages est une absurdité dans les termes. Bon. Et que la solution socialiste ne serait pas d'éliminer les embouteillages par, je ne sais pas quoi, le quadruplement de la largeur des Champs-Élysées. Le problème n'est pas là. Bon, c'est un problème de qu'est-ce que c'est que ces villes, Qu'est-ce que ces gens ont envie de faire? Comment diable se fait-il qu'ils préfèrent avoir leur bagnole et passer 4 heures par jour dans les embouteillages qu'autre chose, etc., etc., etc. Bon. Donc, le problème d'une nouvelle société, c'est le problème d'une création culturelle extraordinaire. Et la question qui se pose, c'est est-ce que de cette création culturelle, nous avons devant nous des signes précurseurs et avant-coureurs? Est-ce que nous voyons autour de nous, nous qui rejetons du moins en parole le mode de vie capitaliste et tout ce qu'il implique, et il implique tout, tout, absolument tout, est-ce que nous voyons autour de nous naître un autre mode de vie qui préannonce, qui préfigure quelque chose, qui donnerait précisément un contenu substantif à l'idée d'autogestion, d'autonomie, d'autogouvernement et finalement même d'auto-institution? C'est-à-dire, oui, s'auto-gouverner pour pouvoir réaliser ses autres souhaits et ses autres besoins qui ne peuvent pas l'être dans le système contemporain. Or, nous, nous pouvons en penser à de tels besoins, n'est-ce pas? Et peut-être pour nous, ils comptent. Je crois, moi, par exemple, avoir la possibilité, quand on veut, d'aller flâner 2 jours dans les bois. Mais la question n'est pas là. La question, est-ce que c'est ça qui commence, ça ou autre chose, qui commence à poindre comme important pour les gens dans la société actuelle? Et finalement, ici, je termine avec une question. Est-ce que sur cette ligne, nous ne rencontrons pas effectivement la limite de la pensée et de l'action politique, qui bien entendu doit avoir une limite comme toute pensée, comme toute action? Et peut-être qu'elle doit la connaître. C'est-à-dire que ni nous, ni personne ne peut décider d'un mode de vie pour les autres. Nous pouvons dire que nous sommes contre le mode de vie contemporain, avec, encore une fois, tout ce que ça implique, et ça implique tout, et pas seulement contre la construction de telles centrales nucléaires, ce qui n'est qu'une implication du énième ordre. Dire déjà que nous sommes contre tel mode de vie, ça introduit par la bande un problème formidable. Parce que ça introduit par la bande le problème qu'on peut appeler, au sens le plus général, du droit dans son contenu, non pas comme droit formel, mais dans son contenu. Je veux dire par là, s'il y a des gens qui non seulement veulent de l'électricité, exemple absurde, mais insistent pour que leur électricité provienne d'un réacteur nucléaire. Ils ne veulent pas d'autre. Hein? Thermique ou hydraulique, ben, non. Ils veulent. Bon. Qu'est-ce que vous dites? Et qu'est-ce que nous disons? Ben, nous disons, il y a une décision majoritaire, nous l'espérons, qui interdit aux gens qui ont ce goût de le satisfaire. Alors, l'exemple est absurde, mais on peut facilement en trouver d'autres qui ne le sont pas, n'est-ce pas? Bon. Donc, ce qui est posé dans la question du mode de vie, c'est toute la question, finalement, de l'autogouvernement et de l'autolimitation de la société, et de la limitation par la société de ce que peuvent être les désirs illusoires, pervers, tout ce que vous voudrez, peu importe, d'une partie de ses membres, partie qui d'ailleurs actuellement est du point de vue d'où nous parlons, est la grande majorité, mais enfin, bon, je fais un saut dans le temps. Ça pose donc ce problème du droit, et ça pose positivement, si vous voulez, de notre côté, la nécessité de concevoir, de penser une société qui est compatible avec la plus grande diversité possible de créations culturelles, et y compris donc aussi de modes de vie et de systèmes de besoins. Je crois que reconnaître cette limite à la pensée et à l'action politique, c'est-à-dire s'interdire précisément de refaire le travail des penseurs, dans les mauvais cas du passé, décidant comme Platon ou même Aristote que telle gamme musicale est bonne pour les gens et telle autre gamme est mauvaise et donc doit être interdite dans la cité, ou décidant comme Marx que ce que l'histoire décidera est bon, l'histoire a décidé pour le goulag, tant pis, bon, elle a décidé, terminé, bon. Reconnaître cette limite, c'est précisément donner un plein contenu à ce que nous disons, à savoir qu'une politique révolutionnaire aujourd'hui est en premier lieu et avant tout la reconnaissance de l'autonomie des gens, c'est-à-dire de la société elle-même, comme seule source ultime de la création institutionnelle.